la parole maintenant à Grégory. Pour le 22e siècle, en remerciant évidemment, c'est-à-dire que si on fait un ratio nombre de siècles temps, c'est évidemment Thomas qui gagne.
Bien, alors moi je serai extrêmement bref, comme vous pouvez toujours. Et disons que ce dont je vais vous parler, c'est comment, sous quelle forme, cette réflexion qui existe effectivement chez les auteurs anciens et même chez les auteurs modernes, de la première modernité, mais qui existe sous la forme quand même secondaire par rapport à une réflexion qui est plus centralisée ou plus qui s'intéresse plutôt à la question de la loi, de la règle, etc. Comment petit à petit cette logique ou cette question des rapports entre économie et politique et de la séparation entre l'économique et le politique vient à devenir mainstream, c'est-à-dire comment cette réflexion sur les mœurs, les réflexions sur la rationalité de la société qui fonctionne par selon une rationalité qui diffère de la rationalité de la loi, mais qui peut-être a un impact normatif plus profond ou plus en profondeur que celui des règles juridiques, eh bien, on vient à devenir une question centrale avec ce retournement, effectivement, qui est que petit à petit, pour un certain nombre de penseurs de l'économie politique, c'est finalement le politique qui doit aligner son comportement et ses actions en fonction d'une rationalité qui lui est extérieure. Alors pour vous expliquer ça, je voudrais d'abord juste prendre une petite précaution, c'est que forcément on a placé Hume, ou disons même plus généralement les Lumières écossaises, comme un point central dans l'histoire de la réflexion sur les normes, et comme étant même le point de basculement qui conduirait d'une logique de réflexion sur les normes, alors sous réserve évidemment de tout ce qu'a dit Thomas, donc le point de basculement entre une logique de réflexion sur les normes et une autre. Alors en faisant ça, forcément, ceux qui connaissent les auteurs, disons, qui ont pensé le néolibéralisme au XXe siècle, remarqueront une profonde similarité avec ce que, par exemple, quelqu'un comme Friedrich von Hayek fait. C'est-à-dire que Hayek a identifié les auteurs dits de l'ordre spontané, à savoir les auteurs des Lumières écossaises, à commencer par Mandeville, et Hayek a été un des premiers à demander à ce qu'on porte à nouveau attention à quelqu'un comme Mandeville, a identifié donc ces auteurs de l'ordre spontané comme ceux qui allaient conduire à une nouvelle réflexion que Hayek poursuivrait, à une nouvelle réflexion sur la manière de réguler le social, de penser le social, de penser le rapport entre le droit et l'économie, etc. Alors, si je veux mentionner cette éventuelle filiation qu'il y aurait lieu de détecter dans le titre de notre exposé, il ne s'agit pas ici, je crois, de s'inscrire dans cette mythologie, quelque part, d'une continuité de pensée entre les Lumières écossaises et les thèses de Hayek, puisque, comme Thomas l'a bien montré, il y a une différence majeure entre la manière dont le libéralisme pense le politique et la société et la manière dont le néolibéralisme pense le politique, la société, la subjectivation, etc. Cela étant, il n'en est pas moins vrai qu'il existe quelque chose de séduisant dans cette filiation, parce que on peut trouver dans cette réflexion, la réflexion sur les normes menée par les Lumières écossaises et donc aussi la naissance de l'économie politique dans son plus bel âge, on peut trouver effectivement un cadre intellectuel permettant de penser les processus de normalisation auxquels nous nous intéressons, et on peut comprendre comment entre une situation où, dans un premier temps, l'époque dont parlait Thomas, notamment la modernité, a essayer de conserver l'opposition entre l'économique et le politique, elle en vient finalement à les mêler, et on en arrive d'ailleurs parfois, et là je cite un auteur bien plus tardif mais du 19e siècle, considérer que c'est l'économie politique qui dicte en fait la totalité des règles. Et je vous cite un auteur, c'est Alfred Jourdan, qui écrit un ouvrage, « Des rapports entre le droit et l'économie politique ». Ou philosophie comparée du droit et de l'économie politique, où il explique en quoi, et je le cite, « l'économie politique fournit la matière première que le droit met en œuvre, ce qui montre bien le retournement qui s'opère progressivement entre une logique où l'économique est distincte du politique et le moment où l'économique impose au politique ses orientations. » Bien. Alors comment caractériser cette évolution donc entre une réflexion sur le droit qui serait centrée sur la règle, sur la norme, et une réflexion et une réflexion sur le droit qui s'intéresserait aux normes et aux processus qui ne sont pas dans la logique de la souveraineté et de l'imposition par le souverain de son autorité. Eh bien, on peut comprendre cette évolution, à mon avis, en fonction, c'est une filiation qui est relativement bien connue, en fonction d'une volonté qui s'est manifestée progressivement de tout un ensemble d'auteurs de répondre au problème que Hobbes posait. Le problème de l'anthropologie, en l'occurrence hobbesienne. C'est-à-dire qu'on peut montrer comment, dès après le Léviathan, se développe en réaction aux thèses du Léviathan tout un ensemble de textes qui vont mettre en évidence et s'intéresser en particulier à la question de la sociabilité. La question de la sociabilité qui est donc mis en avant pour s'opposer à l'idée que l'être humain ou l'individu serait un être fondamentalement esseulé et qui, dans cette situation, ne peut accepter, disons, l'autorité que de manière volontaire, avec une imposition, avec un principe qui est que toute norme de comportement qui viendrait de l'extérieur ne peut être imposée que par une volonté qui s'affirmerait. C'est ce qu'on retrouve chez Hobbes, à la fois dans sa théologie de la toute-puissance de Dieu, pour ce qui est des règles de droit naturel, ou dans l'imposition des règles par le souverain, ou dans la soumission des individus par l'intermédiaire du contrat. Donc une réflexion sur la norme, une réflexion sur la loi qui, chez Hobbes, était fondée et qui se caractérisait par un caractère central de la volonté. Cette désignation ou ces conséquences liées à l'anthropologie hobbesienne vont être mises en cause, comme je vous le disais, par tout un ensemble d'auteurs, et notamment Pufendorf, qui vont essayer de se démarquer de Hobbes, et ce sera progressif, en mettant en avant le caractère naturellement sociable de l'homme. Et ce caractère naturellement sociable, il implique, bien entendu, que, comme on le dit de manière très, très, très simple, parfois en parlant des Lumières écossaises, l'échange précède le contrat. Ou pour le dire autrement, il existe de la normativité, et c'est l'idée du Rameur chez Hume, il existe de la normativité indépendamment de l'expression d'un accord au sein d'un contrat, au sein d'un instrument juridique quelconque. Et cette réflexion qui ne commence pas avec Pufendorf, elle est bien antérieure, mais qui se développe autour de Pufendorf et de la question de la sociabilité, elle conduit tout un ensemble de penseurs à s'intéresser à toutes des questions qui peut-être étaient laissées en arrière-plan auparavant, et notamment à tout ce qui concerne les mœurs, l'histoire des mœurs, ou ce qu'on pourrait appeler, avec un peu d'anachronisme, l'histoire sociale, une histoire qui ne met pas au centre développement et de la trame de l'histoire le comportement des souverains, mais qui s'intéresse bien plutôt aux petites modifications de comportement qui ont des conséquences qui sont beaucoup plus importantes que l'action, disons, hasardeuse de l'un ou l'autre souverain. Reconnaître ceci, à savoir reconnaître la sociabilité fondamentale de l'homme et reconnaître aussi que ce qui importe dans le développement de l'histoire universelle, entendons-nous, dans l'histoire universelle, est en fait les petites inflexions, c'est quelque chose que Hume mettra particulièrement en évidence, dans son histoire d'Angleterre notamment, cet intérêt grandissant pour ce type de processus conduit à plusieurs basculements, plusieurs évolutions. Alors, le premier basculement, c'est évidemment un basculement de la question de l'institution du social, c'est quelque chose de relativement classique, mais de la question de l'institution du social, qui était la question fondamentale de la philosophie hobbesienne, à une question qui est différente, qui concerne la question de la gestion du social. Alors, c'est un petit peu simple de le dire comme ça, mais en tout cas, un intérêt croissant pour la manière dont, effectivement et empiriquement, les choses se produisent et comment il est possible d'influer sur le cours des événements de manière extérieure, mais néanmoins en respectant la rationalité propre d'un monde qui se constitue indépendamment d'une volonté qui imposerait la manière dont ce monde se constitue. Alors ceci conduit évidemment à une objectivation de l'analyse sociale, et du point de vue du droit, ou de la théorie du droit, conduit à un basculement d'une théorie du droit qui serait fondée sur la volonté à une théorie du droit, ou une théorie de la norme, qui inclut le droit en l'occurrence, qui est fondée ou s'intéresse en particulier aux effets. Et c'est là le point fondamental, je pense, de l'évolution qu'on peut retracer, c'est que le point de départ de l'analyse évolue énormément dès lors qu'on change on change de perspective, puisque on part alors du principe non pas que le monde est à construire en l'occurrence, mais que le monde existe et que, comme dit Hume, qui reprend Galilée puisque il est emprunt de tout un ensemble d'idées galiléennes, il mondo vadesse, le monde va de lui-même, le monde possède une rationalité propre dans laquelle et contre laquelle on ne saurait aller, mais avec laquelle il faut pouvoir jouer. C'est quelque chose qui s'exprime dans tous les textes, je crois, de l'économie politique, sans pouvoir et sans vouloir retracer ici le développement de l'économie politique, beaucoup l'ont fait, et bien mieux que ce que je pourrais faire, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les textes de la naissance de l'économie politique, cette idée que le monde va de lui-même, poursuit ses propres voies, et qu'il est inutile, et même inefficace, d'essayer d'imposer au monde social une rationalité qui lui serait complètement extérieure. C'est quelque chose qu'on voit très très clairement dans les textes des physiocrates, pour prendre certains auteurs qui ont pensé la naissance de l'économie politique, qui ont contribué à la naissance de l'économie politique. Alors pourquoi est-ce qu'on le voit très bien? Parce que, je vais vous citer un petit passage de Le Mercier de la rivière, alors c'est un texte relativement tardif évidemment par rapport à la période dont on parle, mais qui met bien en évidence cette idée-là. Donc un texte de Le Mercier de la Rivière qui s'appelle « L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques ». Et dans ce texte, que dit-il à un moment donné? Il dit « Dans un gouvernement conforme à l'ordre naturel et essentiel des sociétés, tous les intérêts et toutes les forces de la nation viennent se réunir dans le souverain comme dans leur centre commun. Celles-ci lui sont tellement propres et personnelles que sa volonté seule suffit pour les mettre en action. On peut dire ainsi que sa force est dans sa volonté. Mais dans un gouvernement factice et contraire à cet ordre essentiel, l'autorité du souverain parvoit à être une autorité étrangère, parce que le souverain lui-même parvoit à être étranger. Il ne peut commander qu'autant qu'il est armé d'une force factice autre que celle de la nation, attendu que c'est moins à lui qu'à cette force empruntée que la nation obéit. » Alors, pourquoi je vous cite ce passage? C'est qu'ici, on voit bien que ce que dit Le Mercier de la Rivière, c'est que le souverain n'est véritablement souverain, et on sait que les physiocrates sont partisans du monarque absolu, le souverain n'est véritablement souverain que dans la mesure où il règle très exactement ses ordres et sa manière de gouverner sur l'ordre essentiel des sociétés politiques, à savoir ce monde qui possède sa rationalité propre. Autrement, il n'est pas le véritable souverain, il n'impose et n'a qu'un gouvernement, Le Mercier de la Rivière, n'a qu'un gouvernement factice. Autrement dit, ce que les physiocrates soulignent, c'est qu'au fond, pour être véritablement souverain, il faut en quelque sorte abandonner l'aspect volontaire le pouvoir de choix qu'implique habituellement la souveraineté, et se régler sur la manière dont la société et les intérêts dans la société évoluent naturellement. Alors, si ceci est très clair chez les physiocrates, on voit aussi que dans cette même lignée, on peut observer petit à petit aussi une réflexion sur la manière dont on peut éventuellement jouer avec cette rationalité propre de la société qui existe indépendamment de la volonté souveraine. Comment est-ce qu'on peut éventuellement agir de manière ponctuelle pour donner une inflexion à la manière dont cette société qui se autorégule, entre guillemets, ou qui a une rationalité propre, eh bien, s'adapte à une volonté qui s'imposerait néanmoins de l'extérieur. C'est-à-dire que la question classique du gouvernement se pose de manière différente et devient donc comment agir en accord avec la rationalité sociale pour obtenir le plus d'effets possible, comment profiter aussi de l'effet beaucoup plus profond que cette normativité sociale peut avoir, à la différence de la normativité juridique qui viendrait s'imposer sans éventuellement produire des effets dans la profondeur de la société. Et cette rationalité-là, cette manière de penser du gouvernement-là, elle implique alors des instruments nouveaux qui vont se généraliser, et donc les instruments dont la statistique, etc., vont se généraliser, se généraliseront effectivement de manière postérieure aux travaux des Lumières écossaises, avec notamment les caméras Wissenschaft, et là je mentionne l'ouvrage qui circule parmi vous, qui est dirigé par Michel Xifaras. Hein, des nouveaux instruments qui sont des instruments liés à la statistique, liés aux différentes mesures de publicité qu'il est possible d'utiliser pour avoir un effet dans cette rationalité que la société a d'elle-même. Alors, ce mode de gouvernement-là, cette manière différente de penser le gouvernement, c'est tout ce que je dirais encore pour qu'on ait le temps éventuellement de discuter, et puis parce que de toute façon, ce serait trop long. Cette logique du gouvernement-là, elle va prendre en fait une forme. Enfin, disons qu'elle va prendre, on peut la comparer à un certain paradigme de la manière de considérer l'acte du gouvernement. Et ce paradigme, il est mis en scène dans le cadre d'un débat qui a fait rage au XVIIIe siècle, justement à l'époque des Lumières écossaises, et qui voit s'opposer deux manières de concevoir le jardin. Alors, évidemment, si je parle du jardin, c'est d'abord premièrement parce que ça met bien en évidence aussi, mais aussi parce que le droit, la réflexion sur le droit, souvent liée à la réflexion sur la botanique, les juristes et les botanistes aiment souvent faire la même chose, ils aiment classer, créer des catégories, etc. etc. Parfois couper aussi. Et donc, cette querelle du jardin qui se développe au XVIIIe siècle, elle voit s'opposer le modèle du jardin français à le nôtre, et le modèle du jardin anglais, ou landscape gardening, et avec des querelles qui sont véritablement très importantes si on lit par exemple l'article de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ou d'autres textes peut-être moins connus qui participent de cette querelle, mais même Voltaire y prend part, etc. Et alors pourquoi est-ce que cette querelle, cette opposition entre le jardin français et le jardin anglais est si importante? Parce que ce n'est pas seulement une querelle sur un ornement, c'est une querelle qui porte en fait sur une question, sur la manière de concevoir le politique et l'organisation de la société, in fine. Quelle est cette opposition? Vous voyez tous, j'imagine, la différence entre le jardin français et le jardin anglais. Le jardin français organise la nature, comme disent certains auteurs de l'époque, selon un absolutisme monarchique. Tout est pensé, tout est dessiné, tout est construit de telle sorte que l'organisation du jardin soit sous le regard de celui qui se situe généralement le mieux pour le regarder, à savoir le souverain, que le souverain voit la totalité donc, de ce qui s'y passe, et que l'ensemble des plantes, etc., correspondent exactement à la logique qu'on a souhaité imposer au jardin. Le jardin anglais correspond à une logique qui est très différente. C'est-à-dire que le jardin anglais prend acte de le développement naturel des plantes, mais agit de manière ponctuelle avec un tuteur ici, telle plante à tel endroit pour faire de l'ombre pour qu'une autre plante, puisse pousser à ses pieds, etc. Bref, organise le jardin en s'appuyant sur les caractéristiques naturelles des différentes plantes qui peuvent agrémenter ce jardin. Et cette idée-là, elle apparaît dans beaucoup de textes. Je vous cite l'article d'Encyclopédie en question. Dans les jardins anglais, la seule nature modestement parée et jamais fardée y étale ses ornements et ses bienfaits. Profitons de ses libéralités et contentons-nous d'employer l'industrie à varier ses spectacles. Alors, contentons-nous d'employer l'industrie à varier ses spectacles, l'idée est bien ici, et je vous citerai d'autres exemples par la suite, l'idée est bien ici de ne pas remodeler complètement la nature, mais d'agir de manière ponctuelle sur l'un ou l'autre point pour favoriser le développement du jardin selon les désirs du jardinier. Alors ici, Georges Gusdorf commente cette littérature sur le jardin et dit « L'ordre ancien s'exprimait d'une manière brutale selon une axiomatique de type euclidien. L'ordre nouveau se lie en filigrane à travers les apparences discordantes. Au lieu de subir une discipline uniformément imposée à tous, le promeneur savoure dans la composition du paysage la présence d'une providence jardinière qui se révèle en se cachant. » C'est cette logique-là, la logique jardinière qui se révèle en se cachant, qui est à l'œuvre dans la manière, le type de gouvernement qu'on vise dans cette idée de gouverner par les normes, me semble-t-il, puisqu'il s'agit bien ici d'une logique de gouvernement qui vise à guider par des interventions ponctuelles, éventuellement de manière indirecte, le comportement et l'évolution de la société ou du grand jardin dans lequel nous vivons. Le jardin anglais est à peine un peu guidé dans ses extravagances par la main de l'artiste, de la même manière que la société est à peine guidée dans ses extravagances par la main de ceux qui veulent avoir un pouvoir sur cette société. Et cette opposition entre le jardin français et le jardin anglais me semble être paradigmatique du type d'évolution nous allons étudier, mais évidemment avec un développement technique dans la réflexion très important, et correspond assez bien à ce qui distingue, me semble-t-il, la réflexion principale qui s'organise autour des normes avant Hume et la réflexion qui s'organise autour des normes après Hume. Je vous remercie.